France Culture.
Question d'islam par Al-Bunshir. Aujourd'hui, nous parlons de relationnalité, de ce concept aux confins de la métaphysique, de la théologie, de la théosophie, de la philosophie. La relationnalité est à la relation, ce qu'est l'intentionnalité est à l'intention, la personnalité est à la personne. Et nous développons ensemble ce concept avec Fouad Bahri. Fouad Bahri, bonjour.
Bonjour, Ali Bencher. Merci de votre invitation.
Je vous en prie, merci. Merci d'avoir accepté de venir nous parler de ce concept que vous forgez vous-même. Vous êtes journaliste, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, rédacteur en chef de Mise à l'Info, Mise à TV. Et quand j'ai entendu parler de ce concept de relationnalité, j'ai pensé au relationalisme ou à la philosophie de la relation des doigts glissants. Le relationalisme est tout aussi un courant de philosophie, même en science dure, exacte, pure, comme disent certains, en physique. Il n'est d'approche entre les phénomènes que d'un point de vue relationnel. Comment étiez-vous amené à forger ce concept de relationnalité ?
Alors, très simplement, en réfléchissant à cette idée assez connue, qui est une réflexion sur l'étymologie du terme de religion, hein, donc en latin cette fois-ci, dans les langues latines. Alors, il y a une double étymologie qui réfère à cette notion de religion, hein, il y a un débat là-dessus. Donc, il y a une étymologie qui réfère à relégérer, qui signifie relire, et une autre qui renvoie à religare, qui signifie relier. Et finalement, quand on réfléchit bien, la première n'est qu'une sous-catégorie de la seconde, puisque le fait de relire est une manière de relier des lettres entre elles, qui forment des mots, qui forment des phrases, qui forment des chapitres, etc., etc. Je me suis interrogé sur, en fait, que signifiait une religion. Finalement, je me suis posé cette question, c'est quoi une religion ? Et j'ai trouvé que cette idée de liaison, alors de liaison entre quoi et quoi ? Eh bien, de liaison entre l'homme et Dieu. La religion étant ce qui relie l'homme à Dieu, je trouvais que cette idée était extrêmement féconde et qu'elle méritait un développement. Et je me suis interrogé pour savoir si dans le cadre de l'islam, des sources, des notions, des rites, des valeurs, de l'univers de sens de l'islam, est-ce qu'on retrouvait cette idée-là ? Et donc j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé qu'effectivement, on retrouve cette idée-là et je pense qu'on peut la retrouver dans toute religion finalement. Je pense qu'on est là dans un universel, si vous me permettez l'expression. Et donc, ça a été le début de cette recherche pour essayer un petit peu d'aborder tous les aspects de cette relation. Et donc, j'ai forgé ce concept de relationnalité. La relationnalité, alors j'ai découvert que le terme existait, mais après avoir commencé l'écriture de cet ouvrage, mais qu'il a un tout autre sens dans les sciences humaines. Voilà, donc ceci n'empêche pas cela. Donc je vais peut-être définir...
Je voulais simplement vous dire, j'ai été frappé par quelques passages de votre préface de l'ouvrage, quand vous parlez de la théologie comme une discipline dangereuse, comme l'idée de franchir et accomplir une avancée périlleuse, que tout cela n'est pas... Il y a une prise de risque maximale. Pourquoi parlez-vous ainsi de la théologie, dont une de ses définitions, en dehors de discourir sur le divin, qui est son étymologie, et l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps, pour parler comme Dominique Chenu.
Alors effectivement, je l'ai formulé ainsi, car il y a toujours une idée sous-jacente à l'intérieur des univers de sens de la religion, et on retrouve ça également dans l'islam, on peut retrouver ça dans la tradition mystique de l'islam, que finalement, Dieu ne se réduit pas à un concept, Dieu ne peut pas être... définir, qu'à définir, c'est finalement faire rentrer une entité quelconque dans un cadre, donc c'est délimiter, c'est réduire. Donc c'est en ce sens-là que j'ai formulé cette préface en me disant qu'il y a toujours un risque pour l'être humain finalement de réduire Dieu à la conception qu'il peut en avoir, cette conception fût-elle hautement rigoureuse, puisse-t-elle atteindre des sommets de la pensée finalement à l'égard de l'infini et de l'absolu que représente l'être divin, là c'est sur le plan métaphysique, il y a toujours un risque, mais en même temps il y a presque une tentation. Mais je dirais que cette entreprise, finalement, peut se racheter par son intention première et sa finalité, et surtout son intention qui est finalement ce désir, cet amour de vouloir connaître Dieu tel qu'il est, et justement de partir à cette recherche et à cette rencontre, d'entamer cette quête, et d'essayer d'associer justement la réalité de l'expérience spirituelle avec la beauté et la hauteur de la théorisation. Voilà, donc là on rentre dans le champ théologique. Voilà, donc pour, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Oui, il y a cette idée aussi chez Ibn Arabi, l'un des plus grands métaphysiciens de tous les temps, à croire Isotsu, l'islamologue japonais. Ibn Arabi, pour nos auditeurs, c'est 1165 à Murcie, 1240 à Damas. Certains parmi eux doivent le connaître, mais je n'ai fait que rappeler ses dates de naissance et de décès, et le lieu de naissance et de décès d'un des plus grands maîtres, ou docteur Maximus, quand il disait « Méfiez-vous du Dieu créé dans les convictions, dans les dogmes ». C'est-à-dire, c'est cette idée que tout ce qu'on peut dire, il le dépasse. Il est tout et ce qui le dépasse. Et donc, pour vous, et avec ce concept de relationnalité, c'est aussi une manière d'approcher le divin, fût-ce d'une manière asymptotique.
Je me suis fait cette réflexion récemment, je me disais que finalement, à travers cette notion de relationnalité, je prenais un contresens avec ce qu'on pouvait parfois penser de ce qui est la relativité. C'est-à-dire, quand on parle de relativité, ceci est relatif à cela, ce que vous dites est relatif, qu'on oppose évidemment à l'absolu, hein, l'absolu, c'est ce qui est sans relation. C'est aussi ça, al-mutlaq en arabe, qui a donné, dont la racine a donné talaq, c'est-à-dire le divorce, donc la séparation, c'est ce qui est sans relation. Finalement, cette manière de dire ceci est relatif à cela, c'est
et qui a donné taliq, ce qui est libre.
Voilà, exactement. Et donc cette manière d'exprimer la relativité, donc pas au sens de Einstein, mais au sens usuel du terme, limiter les choses à la personne qui va la dire. Finalement, la relation telle que je l'ai abordée n'est pas du tout dans cette direction-là. Elle est une ouverture plutôt qu'une réduction. Voilà, puisque il n'y a pas de Dieu sans de divinité sans adorateur. Voilà. C'est ce que dit aussi, il me semble, Ibn Arabi dans un de ses textes. Il n'y a pas de seigneur sans serviteur. Donc, il y a nécessairement une relation qui s'instaure dans le cadre de la religion. Voilà, dans le cadre de la religion, qui est ce véhicule, finalement, qui permet la rencontre avec Dieu sous différentes formes. Voilà, il y a des formes spirituelles, il y a des formes éthiques, il y a des formes sociales aussi, à travers la notion de pacte, tel qu'on a pu le voir dans la vie du prophète, hein, celui de la paix. Et donc, il y a différentes modalités que cette relationnalité exprime. Voilà. Et donc, si je devais définir ce concept, je dirais que la relationnalité est l'ensemble, alors c'est un peu technique, mais c'est accessible, c'est l'ensemble des modalités d'union à Dieu, voilà, d'union ou de rapprochement à Dieu, de relation avec Dieu, voilà. Donc c'est comme ça que je le définirais.
En lisant votre ouvrage, j'étais frappé par ça, ce qui n'est absolument pas dépréciatif dans ma bouche, ou bien au contraire, avec un brin d'admiration, qu'il y a eu une facture néoplatonicienne avec l'idée de l'un, et puis tout en émane. Je m'étais un peu plongé dans l'histoire. Je voyais les néo-platoniciens comme Ammonios, Plotin, Porphyre, Jamblique, et puis leur continuateur philosophe hellénisant. Parler, et là immédiatement je réagis à ce que vous avez dit, Dieu est l'être nécessaire par soi, c'est wajib al-wujub, c'est l'être nécessaire, per se, auraient dit les auteurs latins, mais il se trouve qu'il est aussi nécessaire tout autant une conscience humaine qui en rend compte. Et donc c'est l'être nécessaire par autrui. Ce qui fait, selon ma compréhension, que je dis sous votre contrôle, qui donne sens à cette notion de relation et relationnalité.
Oui, il y a deux aspects de la divinité. Il y a le Dieu impersonnel, hein, qui est le Dieu des philosophes, des métaphysiciens, et aussi parfois des théologiens. Et il y a le Dieu personnel. Puisque finalement il y a cette idée qu'on ne peut pas se satisfaire d'une approche purement rationnelle, définitionnelle de Dieu, logique, que ça ne permet pas d'approcher la réalité du divin à travers l'expérience spirituelle. Voilà. Donc il y a vraiment, ce sont des aspects différents. Voilà. Et l'infini du divin permet cette pluralité d'approche. Mais un des aspects aussi qui est important, c'est d'essayer de réconcilier l'approche justement. Théorique, rationnel. D'ailleurs, la théoria chez les Grecs, c'est la contemplation à la base. Donc, d'une certaine manière, c'est la réconciliation est déjà dans le terme, dans le haql que de la langue arabe. On a cette idée de relier les choses entre elles. Donc, quand on dit, on retrouve cette idée dans l'expression française. Est-ce que vous faites le lien? Faites-vous le lien? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà donc cette idée de se relier à Dieu par l'esprit, par l'intellect, mais aussi de se relier à Dieu par le cœur et par l'esprit. Il y a une ambivalence du terme esprit, hein, dans le langage en français, hein, le mot esprit. Et en anglais aussi, il y a une ambivalence. Ça peut vouloir dire la spiritualité, le ruh, et ça peut vouloir dire tout simplement l'intelligence, faire preuve d'esprit, un mot d'esprit, etc. Voilà, donc j'ai tenu à essayer d'associer ces deux approches qui ont souvent été, pas toujours, hein, mais assez souvent opposées, mises en opposition, l'approche purement intellectuelle et l'approche purement mystique, l'expérience du divin, ce que j'appelle l'empirisme spirituel. Voilà.
Et donc, toute votre théorisation, parce que ce qui vous tient à cœur, a priori, c'est à la fois une production intellectuelle, une réflexion, et puis vous forgez un concept, celui de la relationnalité avec cette métaphysique du lien, et aussi comment tout cela se décline dans une approche expérientielle de l'être humain quand il est en lien, dans le cadre de la foi et de la croyance, quand il est en lien avec l'origine non mécanique à tous les mécanismes.
Oui, alors je propose une typologie hein, dans cet ouvrage. Voilà, j'ai identifié un certain nombre de formes de relationnalité. Alors je vais pas spoiler le livre en les déclinant toutes, mais je vais peut-être donner.
Il y en a au moins sept.
Voilà, il y en a au moins sept. Voilà, je vais peut-être donner un ou deux exemples. On trouve à deux reprises au moins dans le Coran donc deux signes coraniques qui évoquent si Dieu ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, la corruption se serait installée sur la terre. Et dans un autre passage, si Dieu ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, les ermitages, les monastères, les synagogues ou les mosquées auraient été détruites. Donc il y a cette idée d'une relation d'opposition qui crée un équilibre. Voilà, c'est l'équilibre par l'opposition des forces. Ça nous rappelle, par exemple, la coexistence pacifique ou la guerre froide après la Seconde Guerre mondiale où nous avions deux superpuissances qui globalement s'équilibrer dans le rapport de force.
Le fameux équilibre de la terreur.
Voilà, bon, c'est pas l'expression que j'aurais utilisée dans le cadre. Voilà, mais voilà, c'est l'équilibre par le rapport des forces qui s'oppose et qui évite justement une corruption, une suprématie qui soit dévastatrice. Voilà, donc ça c'est une des formes où la relation passe par le conflit, hein, paradoxalement. Hein, voilà, mais le conflit est une relation. Hein, voilà, mais avec qui produit un équilibre général, un équilibre des forces. Voilà. Donc ça c'est une des formes de la relationnalité. Il y a une autre forme qui est la relation par contraste, que j'aime beaucoup.
Qui n'est pas tout à fait celle de la relation par opposition, celle que vous venez de dire.
Ouais.
Et donc il y a une relation par contraste. J'utilise l'anglicisme que vous avez utilisé. Je spoil un peu.
Allez-y, spoiler.
Parce qu'il y en a au moins sept. Il y a, comme ça de mémoire, la relationnalité d'identification. Il y a celle de la complémentarité. Il y a celle de l'opposition que vous avez évoquée. Il y a celle par le contraste, mais que vous allez nous développer aussi. Celle de la mutualisation, celle analogique. Et on finit par une relation, une relationnalité de correspondance.
Voilà.
C'est à vrai dire que vous avez fait œuvre d'une production et d'une réflexion intellectuelle. Et cette typologie-là, pour ceux qui, parmi nos auditeurs, s'y intéressent, auront à lire votre ouvrage. Mais vous nous avez déjà expliqué la relation par ou d'opposition, cette relationnalité, et donc celle du contraste.
Voilà, donc un autre signe coranique qui dit « Rends le bien pour le mal reçu, et tu verras celui qui pouvait avoir envers toi une certaine forme d'inimitié, devenir un ami proche ou se rapprocher. » Donc finalement...
Le verset coranique dans son contexte, et étymologiquement un contexte, c'est les contours du texte en tant que tel. C'est le verset 34 de la sourate 41, la sourate dit des versets détaillés, et ce verset dit en substance « Et quelle meilleure parole que de se dire « Je m'en remets à Dieu, la bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair, rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait de lui se transformait en ami et protecteur chaleureux, mais n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience » et n'y parvient que celui qui siège d'une grâce infinie. » Fin de citation du verset ou du signe, comme vous dites. Donc, la totalité est ça, parce que ce qui est encore plus important dans ce que vous allez développer par contraste, c'est aussi la vertu de la patience, et c'est aussi par grâce que certains peuvent développer la patience, l'endurance, et qui les aide à surmonter ce qui est un mal, et de le rendre par le bien.
Oui, tout à fait. Alors, il y a ce verset ou ce signe est très riche puisqu'il y a beaucoup d'éléments. Donc, je centrais juste sur l'élément qui concernait la relation par contraste. Mais vous avez effectivement raison de rappeler le contexte et les conditions d'application. Donc, le contraste, c'est quoi? C'est vous recevez du mal, de la méchanceté, de la malveillance, voire peut-être même de la violence, et votre réponse n'est pas de rendre le mal pour le mal. Ce qui est dans un cadre d'une réflexion sur la justice, dans le cadre d'une légitime défense, serait tout à fait accepté. Non, vous rendez le bien, et finalement, vous provoquez une conversion au sens étymologique du terme, c'est-à-dire s'orienter, se tourner vers, voilà, de votre opposant, de votre assaillant ou de la personne qui a fait preuve de malveillance à votre égard. Donc il y a un contraste ici qui est saisissant et qui se saisit finalement du cœur et de l'esprit de celui qui vous a voulu du mal. Et ça, c'est quand même un tour de force remarquable, mais effectivement, il y a des conditions à remplir. Il faut être en état de paix avec soi-même. Donc il faut vraiment, c'est la dimension vraiment spirituelle du message de l'islam. C'est-à-dire, c'est pas seulement quelque chose qui est formel et superficiel, c'est quelque chose qui doit transformer l'être. On appelle ça tahakkuk, c'est-à-dire la réalisation des qualités divines ou des attributs divins. Hein. Donc assalam est d'ailleurs un nom divin. Et cette célèbre formule assalamu alaikum que les musulmans se prononcent quand ils se saluent, que la paix soit sur vous. Donc il y a un pluriel ici. Ça doit aussi nous rappeler que c'est un nom de Dieu. Donc c'est aussi une manière de dire que Dieu soit avec vous. Voilà, donc il y a vraiment une profondeur. Donc ça, effectivement, il y a des conditions à remplir pour réaliser ces formes de relations.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons à la fois d'un concept et puis de sa mise en pratique. C'est le concept de la relationnalité, cette métaphysique du lien avec le journaliste essayiste Fouad Bahri qui est aussi rédacteur en chef de Mise en Info, Mise en TV. Et si nous passions à un autre type, en tout cas, de relationnalité. Qu'est-ce que vous auriez choisi? Nous ne pouvons pas passer les sept, mais en dehors donc de la relationnalité d'opposition et celle du contraste, qu'est-ce que vous voudriez encore nous expliquer?
Alors, je pense qu'il serait intéressant peut-être pour vos éditeurs qu'on aille sur des aspects un peu plus peut-être pratiques sur ce concept, hein, puisque finalement tout ce qui se décline dans cet ouvrage, bah, finalement trouve son unité de sens dans ce concept. Hein, c'est ce qui permet de relier l'ensemble des choses. Parce qu'il y a des aspects qui sont de l'ordre de la globalité, hein, de l'ordre du macrocosme. Hein, on l'a vu avec, par exemple, la relation d'opposition, hein, qui n'est pas quelque chose qui est strictement individuel ou inter-individuel, mais qui est de l'ordre de l'international, hein, d'ailleurs. Hein, on est dans le champ de la géopolitique, d'une certaine manière. mais peut-être, pour que ce soit plus accessible à vos auditeurs, rappeler comment cette idée de la relation, finalement, elle se traduit dans les aspects les plus quotidiens de la vie du musulman, hein, puisque c'est le cadre général, même si j'essaye aussi de faire des comparaisons avec d'autres traditions religieuses. J'ai mis pas mal de citations d'autres traditions religieuses en exergue des chapitres.
Et même à ce sujet, pardonnez-moi, je vous interromps dans votre développement, mais en tout cas, vous évoquez la dialectique hegélienne, là, un peu en arrière-plan, et aussi avec... C'est dire que vous voulez matiner toute cette approche de quelques approches philosophiques. Et donc, vous parlez de la dialectique de Hegel par une sorte de réserve de Søren Kierkegaard.
Oui. Alors, j'ai voulu évoquer tout de même cet aspect des choses parce qu'on pourrait se dire, alors du moins les connaisseurs de l'œuvre de Hegel. Donc, la philosophie occidentale est une source extrêmement riche de réflexion, de production. C'est une école à penser. Hein, donc, c'est un passage obligé pour toute personne qui fait œuvre de théorie, hein, de théoricien, qui voudrait être un théoricien. Et effectivement, il pouvait y avoir des ressemblances entre la notion de relationnalité et la notion de dialectique. Donc j'ai essayé juste très rapidement, parce que voilà, c'est comme une philosophie assez complexe, hein, qui demande énormément de travail. Et voilà, donc je voulais juste situer la notion de relationnalité par rapport à celle de la dialectique hegélienne. Et sur Kierkegaard, il y a effectivement cette idée que finalement, sauf pour Dieu, la vie et l'existence ne peut pas être posée comme un système par les êtres humains eux-mêmes, puisque ça supposerait qu'ils aient une position méta qu'ils ne peuvent avoir et qui est celle de Dieu précisément.
Et c'est-à-dire une vision un peu en surplomb.
C'est ça.
J'ai eu l'occasion peut-être à ce micro ou ailleurs de convoquer Kierkegaard pour nous mettre en tout cas pour faire attention à propos de la certitude. Et il disait à ce sujet, il arriva que le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint en avertir le public. On pensa qu'il faisait de l'esprit et on l'applaudit. Il insista, les rires redoublèrent et on l'applaudit de plus belle. C'est ainsi que périra le monde dans l'hilarité générale de ce qui, au mieux en dehors de leur certitude, n'est que divertissement et plaisanterie. Fin de citation de ce passage de Søren Kierkegaard pour dire attention, parfois on pense qu'on est dans les certitudes, elles nous obnubilent, au mieux on pense que en dehors de ces certitudes-là, ça ne relève que de du divertissement. Et alors qu'il faut savoir relativiser les choses, en tout cas les comprendre selon d'autres facettes.
Oui, il faut faire preuve de prudence intellectuelle, d'humilité aussi. Hein, voilà, il y a un travail. Il y a toujours, ça c'est important aussi, j'aime bien cette notion de vertu épistémique hein, qui est utilisée parfois, y compris... au Collège de France, il y a une chaire de la métaphysique et de la connaissance où, voilà, j'avais vu une fois dans un colloque les vertus épistémiques. C'est quoi les vertus épistémiques? Et j'aime beaucoup cette idée-là. Et on retrouve ça, évidemment, dans une autre dimension, dans la tradition de l'islam, avec cette idée que finalement, il faut purifier son cœur et son âme, il faut lutter contre les penchants de son âme pour justement pouvoir recevoir la réalité telle qu'elle est, sans la déformer par le filtre de nos passions. Et la rejeter ou la surévaluer selon nos désirs. Donc cette dimension, oui, bien sûr, elle est très importante. Et finalement, elle nous rappelle qu'il y a toute une anthropologie de l'homme à saisir quand on parle de connaissance. Qu'est-ce que la nature humaine ? Il ne faut pas faire l'impasse sur l'une de ces dimensions, car finalement, cette impasse se traduira, aura une traduction finalement sur le plan épistémique lui-même.
Alors, vous étiez, et je vous ai un peu interrompu dans votre élan, en train de nous développer comment rendre ce concept opérant dans la vie de tous les jours, pour le croyant et pour la croyante. La suprême théophanie, c'est quoi? C'est la nature, c'est la beauté, ce sont les splendeurs de la création. Ce serait un peu l'équivalent de l'avatar chez nos amis dans l'hindouisme. Comment, à Fouad Bahri, cette idée de la relationnalité est concrétisée chez... dans une âme humaine d'un homme ou d'une femme de foi?
Alors, c'est une question redoutable que vous me posez, puisque quelque part, on remarque que le chemin et le cheminement vers Dieu est aussi évidemment déterminé par l'idiosyncrasie de chacun, hein, c'est-à-dire sa personnalité, son histoire, sa forme, son identité. Voilà, donc certains vont cheminer par un élan d'amour et d'attraction vers la beauté, vers le beau, voilà, qui est l'excellence. Vous parliez tout à l'heure du néoplatonisme, de Plotin notamment, hein, qui est vraiment la source de beaucoup de grands philosophes, hein, on l'ignore, hein, mais beaucoup de concepts et beaucoup d'idées viennent de Plotin et qui viennent et en amont de Platon et d'Aristote, parce que le néoplatonisme c'est vraiment ça. Donc pour revenir à notre sujet, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette idée de la relation à Dieu, elle se traduit sous plusieurs aspects, et l'un de ces aspects qui est quand même un aspect essentiel est l'acte de la prière. Voilà, l'acte de la prière. Donc je rappelle que le terme de salat, qui est communément utilisé dans le vocabulaire islamique, signifie, de par sa racine, sila, donc le lien. Voilà. Donc on retrouve cette idée du terme de religion en latin, on le retrouve. Donc il y a vraiment un universalisme, je pense, de cette idée-là. Et effectivement, il est difficile de concevoir une religion qui n'est pas une quelconque forme de prière, puisqu'il y a cette idée de véhicule. Donc cette idée de se relier à Dieu par la prière est une idée, est une pratique, une mise en pratique essentielle de cette idée. Et d'ailleurs, on remarquera que la prière est le seul pilier de l'islam qui n'a pas été transmis par médiation, puisque la tradition musulmane rappelle et souligne que la révélation que le prophète Mohammed a reçue, il l'a reçue par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, Donc c'est une médiation, hein, sauf pour le comment dire ce pilier de la prière qui est un pilier essentiel et qui l'a reçu au moment de cette expérience spirituelle qu'on appelle l'ascension du prophète.
La fameuse chevauchée nocturne et l'ascension céleste.
L'ascension céleste et d'ailleurs cette idée de l'ascension est une idée très intéressante puisqu'il y a plusieurs prophètes qui ont connu cette ascension, mais bon ça je développerai pas ça, mais c'est une des spécificités de la notion de ce pilier qu'est la prière. Et je dis un peu plus loin que la prière est aussi le pilier qui synthétise tous les autres prières, tous les autres piliers, pardon. Voilà, les cinq piliers, puisqu'on parle de cinq piliers de l'islam, on parle de six piliers de la foi, et on parle d'un pilier de l'ihsan, donc l'excellence. Voilà, donc ça c'est une traduction en acte de cette idée de la relationnalité, la prière et ce moment de privilégié de rencontre avec le divin. Et donc là, on est plus dans la théorisation, on n'est plus dans la sphère seulement du mental, on est dans la sphère de l'expérience, de la rencontre, du cœur et de l'être finalement. On est dans une forme d'ontologie spirituelle qui est essentielle et qui est une forme d'empirisme. Hein, si on veut essayer de comprendre ça d'un point de vue de la connaissance, finalement, vous ne pouvez pas rester seulement dans la théorie. À un moment donné, vous devez aller à la rencontre du réel. Et ce terme de réel et de réalité est un terme assez présent dans le vocabulaire, dans le tasawuf, hein, voilà, pour désigner Dieu. Voilà, la réalité suprême, c'est Dieu. Voilà, c'est pas seulement le monde extérieur, hein, puisque évidemment, c'est à ça qu'on pense quand on parle des connaissances. La réalité, on parle du monde extérieur. Eh bien, même au-delà du monde extérieur, il y a une réalité suprême. Donc, la prière est une de ces mises en acte de cette idée de relationnalité. On peut aussi parler d'un autre. On peut donner un autre exemple. Si on se situe sur le domaine de l'éthique, voilà. Donc, je parle de l'éthique de la relationnalité par réciprocité, voilà.
Pour une altérité apaisée.
Pour une altérité apaisée. Et là encore, on a un autre universel qui est finalement cette idée ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, hein, pour reprendre cet adage. Et que l'on retrouve, il me semble, dans la quasi-totalité des grandes traditions religieuses religieuses. Après, la notion de religion, elle peut avoir des acceptions différentes en Extrême-Orient, au Moyen-Orient, et
ou simplement ce qu'on appelle l'âge ou l'ère ou la période axiale,
c'est ça.
Axos grec, c'est-à-dire que en dehors même du prophétisme. Il y a cette notion qui se réduit à cette fameuse règle d'or, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, et une action sur terre de la moindre souffrance pour autrui.
Voilà, tout à fait. Et cette idée, elle est présente dans toutes les traditions, elle est présente aussi dans l'islam. Hein. Voilà, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. C'est-à-dire, nul d'entre vous ne sera croyant ou véritablement croyant.
Ou ne prétendra à la croyance.
Voilà, tant qu'il n'aimera pas. Donc là, c'est l'idée d'amour qui est mise en avant dans les traditions sémitiques d'ailleurs, hein, la tradition islamique, la tradition juive, et dans l'évangile également, il y a l'idée de l'amour. Tant que vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous n'aimerez pas pour vous-même. Et d'ailleurs, An-Nawawi, avait même... commenter ce hadith en disant que on pouvait aussi le comprendre de manière qui pouvait englober l'humanité, c'est-à-dire la fraternité n'est pas seulement la fraternité religieuse, mais c'était aussi la fraternité humaine, voilà. Cette tradition, je l'ai trouvée très forte et je l'ai trouvée même assez géniale finalement. Et donc on la retrouve dans toutes les traditions, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, dans le confucianisme et dans les autres religions. Et elle résume toute la morale.
Même lorsque l'empereur Ashoka a réuni quelques-uns pour en parler, elle était au cœur de la discussion et il leur avait dit, de toute façon, celui qui pense mettre en avant, en la glorifiant, ça... Je parle avec mes mots, hein, de sa tradition religieuse en dénigrant celle d'autrui, eh bien, il ne rend pas service et par là même, il est en train d'altérer sa propre tradition.
Alors, et il y a une dimension qui est axée sur l'action, hein, parce que l'on parle d'éthique, ne faites pas, ou ne désirez pas ou ne voulez pas, puisque c'est le moteur de l'action. La volonté ou le désir se traduira d'une manière ou d'une autre par une action. Et ce qui est génial dans cette règle, finalement, et là, je critiquais un peu l'approche de Nietzsche, par exemple, qui parlait qui faisait cette grande critique de la morale, alors essentiellement de la morale du christianisme, puisque c'est le christianisme a resté l'adversaire, le principal adversaire de la philosophie Nietzsche, mais il y avait cette idée tout de même, mais parfois il parle aussi d'autres religions, hein, il intègre d'autres religions dans sa critique, la mortification, l'ascèse qui produit ce rapport morbide au monde, voilà, où finalement on perd toute dignité, voilà, et on se mortifie à l'égard des autres. Voilà, il y avait cette idée-là que l'altruisme, c'était une mortification à l'égard des autres et que finalement, il fallait plutôt s'assumer comme individualité et que cette volonté de puissance, hein, dans sa philosophie, mais je ne développe pas ça du tout, pouvait être créatrice de valeur. Et bien finalement, je trouvais que cette explication était mal comprendre l'essence de cet adage-là, puisque finalement, quand on dit ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse, bien le point de départ, ça reste tout de même vous, c'est-à-dire votre amour propre. L'amour propre reste le principe de qui ouvre un chemin vers l'autre, finalement. Voilà, qui ouvre un chemin vers l'autre. Traitez autrui comme vous voulez être traité, et finalement, tout le monde gagnera. Donc, je trouvais que cette règle, finalement, était assez géniale et qu'elle méritait d'être soulignée en tant que telle.
Alors, dussions-nous, ou c'est moi qui m'implique à extraire hors contexte tel ou tel passage coranique, j'ai été aussi frappé par le fait que vous vous en prévaliez du verset 53, toujours de la sourate 41, qui dit « Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur soit ou il leur paraisse évident que ceci est le vrai, ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses. » Ceci est vrai, c'est la révélation coranique, c'est le Coran, ou c'est la création tout entière, ou c'est quelque chose qui rapporte au divin. Et donc ceci, cette fois-ci, c'est moi qui pose la question, est-ce que c'est dans une relation avec la nature que l'on voit l'auteur premier?
Mais là, ça renvoie à la notion de ayah, donc de signe. Je parlais tout à l'heure de signe coranique. On traduit, habituellement, on parle de verset. On reprend un peu l'expression biblique. Mais le terme de ayah au pluriel, est beaucoup plus riche parce qu'il parle de signe. Voilà. Et finalement, le signe instaure une grammaire religieuse, un langage. Et on trouve que le langage, finalement, est au cœur de toute cette discussion. Donc le signe, c'est ce qui renvoie vers autre chose. Voilà. Comme la fumée renvoie au feu, la fumée indique la présence d'un feu. Donc vous avez une relation, et le signe en lui-même ne peut pas être compris sans l'objet vers lequel il renvoie. Voilà. Et c'est pour ça que vous voyez, dans le signe que vous avez cité, hein, vous avez une, je ne sais pas si on peut parler de triangulation, mais vous avez une relationnalité entre le kitab ou le wahi, c'est-à-dire la révélation qui est aussi appelée le kitab, hein,
le livre.
Voilà, le livre. Vous avez le monde, donc la création, et vous avez l'intériorité en vous-même.
Les fameux trois livres, hein, livre déployé, le livre écrit et le livre intérieur.
Tout à fait. Donc vous avez une relation qui s'exerce, et vous avez un symbolisme très fort, hein, qui était d'ailleurs qui n'était pas du tout ignoré durant alors le Moyen-Âge en Europe et dans l'âge d'or, ce qu'on appelle souvent l'âge d'or du monde musulman. Vous aviez ce symbolisme, hein, chez Al-Razali, je parlais de la relationnalité par correspondance. Voilà, vous avez cette correspondance qui est faite entre le mulk et le malakout. Le royaume, le monde humain, et puis le royaume céleste, si vous voulez. Donc il y a une analogie, il y a une relation de correspondance. Voilà. Donc cette relation, elle est. Mais après, c'est une question de regard aussi. C'est une question de regard, parce qu'on peut échapper à tout ça. On peut échapper si on n'est pas attentif. Et c'est vrai que dans le vacarme de notre civilisation actuelle, où il n'est pas fait place justement à la nature, dans des grands centres urbains qui goudronnés jusqu'à l'envie, nous perdons ce rapport à la nature et donc au vivant. Hein. Et nous perdons également, en tous les cas, nous le perdons en partie, cette discussion, cette sociabilité humaine. Puisque aujourd'hui les réseaux sociaux, les outils technologiques ont tendance à enfermer l'être humain sur lui-même. Hein, on le voit bien avec les algorithmes. On reste dans un entre-soi qui n'est même pas réel mais virtuel. Donc je pense qu'il est intéressant et important finalement de se souvenir que nous sommes appelés à de plus hautes fonctions que celles-là.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons du concept de la relationalité, les perspectives, la typologie de cette relationalité sont déclinées par le journaliste, essayiste Fouad Bahri qui est aussi rédacteur en chef de Mise en Info et Mise en TV. Et donc, entre la théorie et le fait d'avoir forgé ce dispositif conceptuel et sa mise en pratique, c'est l'objet de notre entretien ce matin. Pour cette dernière partie, cher Fouad Bahri, de quoi pourrions-nous nous inspirer de ce que vous avez à un moment donné appelé une relationnalité ontologique, d'un côté? Et puis, vous parlez de la sémiotique du Coran. Donc, le Coran nous donne des signes, qui sont ces versets, mais c'est au-delà, c'est beaucoup plus riche, qui sont en correspondance, un mathématicien aurait dit, en isomorphisme avec les signes des splendeurs de la création, et le tout nous renvoie à l'intériorité de l'âme. Mais qu'est-ce la relationnalité ontologique ?
Finalement, c'est une manière de réaliser en soi, puisque les signes, on le disait tout à l'heure, c'est ce qui renvoie vers autre chose. Donc, ce sont des points d'appui qui doivent nous permettre justement de sortir de peut-être de la prison de l'ego, voilà, qui nous abîme, pour revenir vers la source de notre être, qui est le Créateur lui-même. Hein. Et donc là, il y a une approche qui est à la fois spirituelle, mais qui est aussi de l'ordre de la réflexion, de l'ordre voilà de la théorie avec un peu avec son sens originel d'essayer de comprendre les choses, voilà, d'essayer de comprendre en profondeur les choses et de ne pas rester simplement dans des approches superficielles, dans des formalismes qui parfois sont vides de sens. Donc voilà, la notion de Haya, elle nous renvoie là-dessus. Et donc finalement, ce travail ne peut que produire une transformation intérieure, une revivification, comme on le dit, ou une purification, c'est-à-dire une mise en présence de Dieu. Ça, c'est le volet spirituel qu'on ressent dans son cœur et dans sa pratique. Mais je dirais aussi que cette transformation ontologique de l'individu, elle se produit aussi, on a cité tout à l'heure la relation par contraste, on pourrait aussi la relation
d'opposition,
le conflit, et je pense que c'est peut-être le moment aussi de réfléchir comment cette idée, comment ce concept pourrait se traduire dans notre contexte. Voilà. Parce que la théorie, c'est beau, c'est joli, mais il faut ensuite faire le lien, il faut l'articuler au réel. Eh bien, évidemment, il y a un chapitre où je parle aussi du... le titre m'échappe, mais j'explique finalement... On parle de religion, on parle de relation de l'homme à Dieu, mais comment expliquer finalement qu'il y ait autant de scissions et de courants qui se déchirent les uns les autres au sein d'une même tradition? On retrouve ça dans toutes les grandes religions. Et l'islam n'y échappe pas, bien sûr.
Ce n'est pas le chapitre qui parle de la divergence accidentelle à l'union essentielle ou quelque chose comme ça, à la concordance essentielle.
À la concordance essentielle, d'accord. C'est tout à fait ça. Merci d'accord. d'avoir appelé le titre. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas ne pas me poser cette question. Il faut essayer de faire preuve d'honnêteté dans ce travail théorique. Et j'ai essayé justement de trouver la réponse dans les sources. Et finalement, la réponse est de se dire que cette divergence est accidentelle au sens où elle relève de la conjecture, puisqu'elle est elle est historique.
De la conjecture ou de la conjoncture ?
Des deux, c'est-à-dire elle n'est pas fondamentale et essentielle, mais elle est possible et donc elle se réalise à ce titre-là. Mais elle peut être dépassée et elle sera dépassée finalement dans un retour à Dieu qui est aussi un retour vers un éclaircissement des choses. Et finalement, plus les conflits charrient des affects et des passions, parce que c'est ça qui explique finalement, on n'est pas dans de la pure... Il y a des enjeux, identitaires, il y a des enjeux personnels très forts. Et vous ne pouvez pas venir simplement avec des arguments dans une discussion en disant « je pense que tu te trompes, en voici la preuve ». C'est pas aussi simple que ça. Donc, il y a une dimension personnelle qui doit se manifester dans ce genre de situation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits intracommunautaires, salafisme vs soufisme, sunnisme vs chiisme, mu'tazilisme vs ash'arisme, etc., etc. Voilà, c'est pas ça qui manque. Et ça mène souvent par des excommunications. Hein, ça a été la réponse. Et d'ailleurs, dans toutes les traditions. Hein, voilà, il y a pas, il y en a qui, voilà. Personne n'a réellement le monopole de ce genre de pratique. Il peut y avoir des différences de degré, mais il n'y a pas vraiment de différence de nature là-dessus. Donc, comment régler ces conflits? C'est la question qu'il faut se poser pour justement produire cette relationnalité. Et ce que j'explique dans ce chapitre que vous avez rappelé, c'est que finalement, il faut revenir vers Dieu. C'est ce que dit le Coran
vous éclairera au sujet de vos différences. Ouais, c'est le fameux verset 48 de la sourate 5.
Voilà, où je vous appelle à une parole commune entre nous et vous, dans le dialogue interreligieux avec les chrétiens. Voilà, donc il y a cette idée de revenir au principe dont tout est issu, le principe créateur, Dieu. Et cela doit aussi se traduire par un comportement. Et par une réalisation des attributs divins. Voilà, c'est quelque chose qui est important. C'est ce qui fait la différence entre une pratique religieuse, une vie religieuse, et un discours, et seulement un discours religieux qui peut être coexister avec toutes sortes de contradictions. Voilà. Donc c'est un peu la réponse que je vous dirais. C'est réfléchir comment créer cette relation. Dans notre monde actuel, mais ce n'est pas chose facile. Voilà, ce n'est pas chose aisée.
Mais que diriez-vous à ceux qui objectent que la divergence entre les êtres humains, est le tribut de leur liberté, puisque Dieu, dans son omnipotence, dans son omniscience, aurait pu cloner les êtres, en faire d'eux uniquement une seule communauté obéissante, reconnaissante, mais il ne l'a pas fait puisqu'il laisse les êtres libres et divers. Et de cette diversité, qui est à la fois une source de bonheur incommensurable, elle est aussi une source de problèmes pour peu qu'on laisse libre cours à l'arrogance, à la suffisance, à la cupidité, à ces questions d'identité, à beaucoup de mots à Maux, et ça, c'est une source effective de problèmes. Mais pour peu quand selon soit une conversion quelconque, soit peut-être c'est vous qui allez nous dire comment il va y avoir une conversion. On se rend compte que par le dialogue, par le fait de venir à une parole commune, par une émulation saine entre à verser dans la bienfaisance, dans l'excellence du comportement, dans le bel agir, eh bien, cette diversité devient plutôt une source de concorde, de bonheur, etc. Et c'est celui qui allège le mieux le fardeau qui accable le dos de l'homme qui souffre, de l'homme en détresse.
Alors en fait, Si on prend le point de départ qui est la nature humaine, justement, on parlait de la réalité anthropologique, effectivement, il y a ce libre choix qui est fait à l'être humain de se déterminer. Ce n'est pas une pure liberté, hein, c'est un déterminisme qui se transcende lui-même par des choix personnels. Donc on a la possibilité de transcender, on ne peut pas réduire l'être humain juste à un déterminisme biologique, physique, puisque nous avons tous, jusqu'à preuve du contraire, le même fonctionnement cérébral et physiologique, et pourtant nous avons des diversités de croyances, de pensées, mais il y a une interaction évidente. Donc forcément ce fonctionnement va produire des divergences, de la diversité, des différences, voilà. La question c'est d'éviter qu'elle provoque des ruptures et des conflits, voilà. Car il y a une menace d'autodestruction et de destruction réciproque. C'est cela qu'il faut éviter. Et donc, il faut essayer de penser la coexistence pacifique et naturelle, harmonieuse des différences. C'est cela. Et donc, cela implique qu'il y ait des principes. Des principes qui fournissent un cadre au sein duquel toutes sortes de variantes et de sensibilités différentes peuvent exister. Et pour y arriver, il faut, il me semble, revenir à l'essence de chaque courant. Vous avez des courants de pensée, vous avez des histoires tragiques, dramatiques, vous avez beaucoup de pathos, vous avez beaucoup de passion qui se transmettent. Il faut avoir l'intelligence de comprendre ces différentes histoires. Et il faut essayer de comprendre quelle est l'essence de chaque courant, ce qui le définit proprement. Et il faut respecter cette essence-là. Et je pense que si nous avons cette approche-là, nous serons capables de comprendre ce qui est commun au sein d'une tradition. Alors évidemment, là, il faut avoir un cadre quand même, parce qu'on peut pas sinon, on va être un peu hors sujet. Mais dans le cadre de l'islam, il y a des fondamentaux, il y a des principes, et il y a ensuite une manifestation humaine, une incarnation, si vous me permettez l'expression, qui doit se traduire, car l'islam n'est pas quelque chose de théorique et d'abstrait, c'est quelque chose qui se vit, la dimension du comportement est quelque chose qui a souvent été mis en avant dans la vie du prophète lui-même, que beaucoup de gens l'ont rejoint, non pas parce qu'il a, pour son propos, pour la proposition théologique, si vous voulez, qu'il proposait à ses compatriotes, mais pour la force de son comportement et la véracité, finalement, le fait qu'il ne se contentait pas de dire quelque chose, mais il le vivait. Voilà.
Et comme il n'a été suscité que comme une miséricorde pour les mondes, vous n'aimez pas l'idée des univers, je l'ai compris, mais vous leur préférez les mondes, puisque pour vous, il n'y a qu'un seul univers. Alors, cher Fouad Bahri, merci d'être venu nous parler de ce concept que vous avez forgé, mais dont vous avez découvert qu'il existait avant. C'est celui de la relationnalité. Chers amis auditeurs, vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture, et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son était assurée aujourd'hui par Delphine Baudet et la réalisation par Anna Holweck.
पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती हर मुख हर कली में ख्वाब हो जाती तुम न डालते मैं फिशा नजरें वरना शबनम शराब हो जाती मैं नजर से पी रहा हूँ मैं नजर से पी रहा हूँ ये समा बदल न जाए हो मैं नजर से पी रहा हूँ ये समा बदल न जाए मैं नजर से पी रहा हूँ नजर से पी रहा हूँ ये समा बदल न जाए न झुकाओ तुम निगाहें हो न झुकाओ तुम निगाहें कहीं रात ढल न जाए झुकाओ तुम ओ निगाहें न झुकाओ तुम निगाहें
कहीं रात ढल न जाए
मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे
मेरी जिंदगी के मालिक
मेरे दिल पे हाथ रख दे तेरे आने की खुशी में
तेरे आने की खुशी में
मेरा दम निकल न जाए हो तेरे आने की हाँ खुशी अभी रात कुछ है बाकी न उठा नकाब साकी
अभी रात कुछ है बाकी न उठा नकाब साकी साकी न उठा नकाब नकाब साकी न उठा नकाब नकाब साकी न उठा नकाब नकाब साकी
अभी रात कुछ है बाकी न उठा नकाब साकी तेरा रिंद गिरते गिरते हो
तेरा रिंद गिरते गिरते
कहीं फिर संभे तेरा रिंद गिरते गिरते
कहीं फिर संभल न जाए
क्या हुआ है मूसा जो है दीद की तमन्ना तमन्ना
जो है दीद की
हाँ तमन्ना जो है दीद की
तमन्ना
तुम्हें क्या हुआ है मूसा जो है दीद की तमन्ना कहीं होश उड़ न जाए
कहीं होश उड़ न जाए
जल न जाए हो
कहीं होश उड़ न जाए
कहीं होश उड़ न जाए
कहीं होश उड़ न जाए
नशीमन न बना सका मैं अनवर
इसी खौफ से नशीमन न बना सका मैं अनवर अनवर न बना सका मैं
न बना न बना
न बना सका मैं
न बना न बना
न बना सका मैं अनवर
न बना सका मैं अनवर अनवर न बना सका हम अनवर न बना सका ओ हो अनवर न बना सका
नशे
इस खौफ से नशे मन न बना सका मैं अनवर के निगाह अहले गुलशन के निगाह अहले गुलशन कहीं फिर बदल न जाए के निगाह अहले अरे हो के क्या है अहले गुलशन, कहीं फिर बदलना।